Vous écoutez Lille 1 Info, le magazine consacré à l'Université Lille 1, chaque mercredi entre 17h30 et 18h sur Radio Campus 106,6 FM, www.campuslille.com. Voilà, eh bien, aujourd'hui nous allons parler des rapports entre développement des sciences et apprentissage de la démocratie, progrès scientifique et aspiration démocratique. Voilà, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marie Brevard. Bonjour Monsieur Brevard.
Bonjour.
Donc vous êtes professeur émérite de philosophie.
Tout à fait.
Et vous donnez parfois, même souvent, des conférences à Lille 1.
Tout à fait.
Et donc ces thèmes sont des thèmes philosophiques, mais ouvert au grand public.
Oui.
Et donc, on pourrait peut-être citer quelques thèmes qui vous ont marqué, qui ont peut-être marqué le public, par ailleurs.
Oui, par exemple, dans le cycle sur la justice, enfin, j'ai participé à la conférence, j'ai animé la conférence de M. Trottignon, enfin, sur la justice à Athènes. Et ensuite, j'ai rédigé le texte parce que M. Trottignon ne voulait pas le faire. Et donc, voilà. Enfin, de même. Je suis intervenu enfin, au moment de du cycle sur la culture aussi. Disons que j'interviens de temps en temps, alors sur les émotions également, j'ai même coordonné la sortie du livre sur les émotions, et ça m'a ouvert vraiment des perspectives extraordinaires, parce que partant de quelque chose qui est éminemment philosophique, comme les émotions, on en arrive très vite à des problèmes d'ordre sociopolitique, etc. Et c'est un petit peu mon objectif, hein, quand je suis arrivé à Lille 1, c'était d'articuler la philosophie que je pratique depuis maintenant une quarantaine d'années quand même, l'articuler avec les problèmes du monde actuel. Et je trouve que Lille 1, de ce point de vue-là, est vraiment une université extraordinaire. Enfin, je le dis parce que je n'en viens pas directement. Enfin, moi-même, j'ai été formé à Lille 3 et puis à la Cato de Lille. Mais j'estime que vous faites un travail absolument remarquable pour justement dégager de toutes les sciences actuelles des indications, des pistes pour une réflexion de type philosophique. Mmh. Et ça me semble très très important.
Alors, on a eu l'occasion dans cette émission d'accueillir deux fois Jean-François Rey.
Oui, ben c'est précisément lui qui m'a fait découvrir justement Archimède et puis les nouvelles d'Archimède il y a maintenant au plus de 10 ans. Il était venu, je l'avais invité à venir pour une session sur Lévinas à la Cato de Lille. Et puis on s'était rencontrés, on avait discuté, il m'a dit tu devrais venir. Et puis voilà, ça a commencé comme ça, l'aventure avec Lille 1, enfin, avec Nabil, et puis enfin, lui aussi, et puis Robert Jargondet et tas d'autres, enfin, si vous voulez, qui m'ont montré qu'il y avait chez les scientifiques une volonté d'aller plus loin que simplement la recherche scientifique, d'aller jusqu'à une recherche de sens. Et quelqu'un comme Robert Jargondet est tout à fait extraordinaire de ce point de vue-là. Ou Bernard Metz aussi. Enfin bon, il y a un certain nombre de professeurs qui sont vraiment remarquables de ce point de vue-là.
Alors, les sciences, bon, en général, c'est quelque chose qui est assez consensuel. Quand on parle de philosophie, on peut imaginer qu'il y a des courants de pensée différentes, des appréciations différentes d'un philosophe à l'autre.
Oui.
Donc cette rigueur philosophique, qu'est-ce qui est quand même sous-jacent en termes de tronc commun qui permet de dire que la philosophie est quand même un langage universel, sinon un propos identique d'un philosophe à l'autre?
Je crois que les philosophes actuels ne facilitent pas toujours la tâche, justement, parce qu'on parle de multiplicité. Et effectivement, mais je trouve qu'il y a quand même un tronc commun qui est finalement la question du sens et de la cohérence. J'ai été formé à Lille 3, ça ne s'appelait pas Lille 3 d'ailleurs, à ce moment-là c'était Angelier, par un professeur qui a été extraordinaire, qui s'appelle Eric Weil. Et ce professeur nous a fait découvrir effectivement qu'il y avait une chose qui était absolument commune à tous les courants philosophiques, c'était la recherche de cohérence. Et justement, cette recherche de cohérence m'est apparue tout de suite comme quelque chose de capital à sauvegarder, y compris dans la multiplicité des sciences. Vous dites que les sciences sont effectivement uniques, elles sont univoques, enfin d'une certaine façon, mais en même temps, elles sont chacune indépendantes les unes des autres, et par conséquent, on peut arriver à une cacophonie entre les sciences elles-mêmes, parce qu'elles ne sont pas vraiment en accord. Je vais prendre l'exemple des cellules vivantes, par exemple. Voilà un domaine qui s'est développé extraordinairement depuis maintenant une quinzaine d'années, au point que nous arrivons maintenant à produire de nouvelles cellules. Mais quel est le rapport entre ces nouvelles cellules qui sont produites en biologie et une autre science telle que la psychologie, par exemple, ou la sociologie? Et moi, ça m'intéresse beaucoup, d'essayer d'articuler précisément les découvertes scientifiques capitales, parce que c'est vraiment un bouleversement extraordinaire. Un autre exemple, c'est celui des post-humains. Enfin bon, c'est une question que j'ai fait un article une fois dans ma rubrique « Vivre les sciences, vivre le droit ». Un article sur les post-humains, justement, et où il apparaît qu'en définitive, lorsque les sciences sont laissées à elles-mêmes, on arrive à des je dis pas une cacophonie, mais du point de vue de la recherche de sens, on arrive à des choses absolument absurdes et insensées. C'est-à-dire la production d'une humanité qui ne serait plus du tout humaine et qui serait simplement un développement automatique et technologique simplement de l'intelligence avec des puces et dans le cerveau, etc. Bon, il y a actuellement tout un courant aux États-Unis qui est très très développé, le cyborg, enfin je pense en particulier au travail de Anne Haraway par exemple, qui ne laisse pas que d'être inquiétant. Je trouve que, et là, je trouvais qu'en tant que philosophe, il y a quelque chose à dire précisément pour rechercher derrière toutes ces tentatives de dépassement de l'histoire humaine pour un post-humain, c'est d'arriver à garder quand même raison et puis à garder un peu les pieds sur terre quand même par rapport à des choses comme ça.
Alors, l'homme a beaucoup évolué depuis sa création, depuis son origine, on va dire.
Oui.
Être post-humain, quelque part, ça peut sous-entendre ne plus être un homme déjà, mais il y a aussi entre deux des gens qui progressent par rapport à une réflexion, une culture qui évolue, et aussi par rapport à des apprentissages qui sont faits, voire à des technologies qui sont des compléments ou qui viennent se greffer quelque part dans leur schéma corporel. Donc on peut peut-être maintenant définir, quand on parle de progrès scientifique, ce qu'on entend. Est-ce que c'est un progrès ou c'est une évolution? Est-ce que toute évolution est un progrès? Est-ce que vous pouvez nous définir un peu ça?
Je pense qu'il y a les deux. Enfin, parce qu'il y a des progrès qui n'en sont pas réellement sur un plan humain. Et puis, bon, de maintenir en vie, par exemple, quelqu'un pendant une période indéterminée, alors que peut-être il serait mieux qu'il meure, enfin, tout simplement, naturellement. Bon, là, il y a peut-être, c'est un progrès, bien sûr, mais en même temps, c'est un progrès qui peut se retourner contre celui qu'il a créé. Mais par contre, il y a des progrès qui sont effectivement, je suis tout à fait de votre avis, des progrès qui sont tout à fait positifs. C'est tout ce qui tourne autour de la recherche de solutions à des problèmes comme le cancer ou autre. Enfin bon, je pense que là, les sciences ont terriblement évolué, enfin en bien. Je ne dis pas qu'on arrive à guérir tous les cancers aujourd'hui, mais quand même, on arrive à en guérir, je crois, d'après les statistiques, 50 à 60% aujourd'hui.
Et on prolonge beaucoup la durée de vie.
Et on prolonge beaucoup la durée de
vie dans meilleures conditions.
Voilà, donc ça c'est tout à fait positif et je ne veux pas, loin de moi, l'idée de cracher dans la soupe, si on peut dire, des sciences. Mais n'empêche que ça ne suffit pas. C'est-à-dire que vivre, mais pourquoi finalement? C'est-à-dire maintenir quelqu'un en vie pendant un certain nombre d'années, allonger l'âge de la vie, oui, mais pourquoi? Et je pense que là, il y a tout un travail philosophique à poursuivre pour définir effectivement quelle est la cohérence de cette vie humaine aujourd'hui.
Donc là, on est sur des progrès scientifiques qui touchent à la vie, à la durée de la vie, à la qualité de la vie. Mmh. On pourrait aussi parler de progrès technologiques qui aident à supporter la vie ou qui aident à développer des possibilités qu'on a du mal, que ce soit physique ou intellectuel. Donc des compléments, on va dire,
oui.
des supports aussi qui sont le refuge de beaucoup quand on voit tous les gens avec leur petit téléphone qui peut maintenant devenir grand et servir à peu près à n'importe quoi. On peut se poser la question, au-delà de l'intérêt économique de grosses industries internationales y trouvent, d'un intérêt personnel et même collectif pour les usages de ces outils.
Tout à fait. Mais là, justement, il y a tout un travail à faire pour j'allais dire, raison gardée là aussi. J'ai donné dans un de mes articles l'exemple précisément du portable le 31 décembre, la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Je pense que là, c'est très important qu'on puisse, au moment même de minuit, souhaiter à nos amis, à tous nos amis, une bonne année. Seulement, il se trouve qu'il y a en même temps 130 millions de messages, et que ça, ça peut créer d'autres problèmes. Enfin bon, c'est-à-dire qu'on rentre dans une machine, dans ce que Agamben appelle un dispositif. Et alors, c'est toute l'ambiguïté du dispositif. Heureusement qu'il y en a. Mais en même temps, le dispositif à lui tout seul peut nous rendre prisonniers. Enfin, nous pouvons
Entraîner des névroses.
Et entraîner des névroses, par exemple, oui. J'ai donné aussi un autre exemple, toujours en reprenant le modèle du téléphone ou de l'iPad. Enfin bon, c'est, j'ai comparé ça un petit peu à comment dire, je cherche le mot... un doudou, enfin voilà, je ne trouve pas d'autre mot. Enfin,
oui, un objet fétiche.
Un objet fétiche. Donc là, de ce point de vue-là, c'est très très bien. Je pense que chacun a besoin justement d'objets fétiches comme cela, mais aussi la difficulté que l'on peut avoir parfois de s'en séparer et d'arriver finalement à l'avoir complètement, toujours entre les mains pendant toute la journée, par exemple. Enfin bon, ça peut arriver. Et donc là, c'est excessif. Enfin, je pense que le philosophe que je suis, enfin, mais ayant été formé, comme je vous disais, par Eric Weil, est quelqu'un qui essaie de garder la juste mesure, justement, des choses, et par rapport au dispositif, justement, de voir en quelle mesure ce dispositif est humain ou pas.
D'accord. Donc, pour revenir à la racine, un philosophe, c'est d'abord un sage.
Non, il essaie. Parce que le mot philosophe veut dire simplement amoureux de la sagesse. Mais c'est pas pour autant qu'il
essaie.
L'est. Mais Eric Weil, justement, qui a été mon maître, termine sa logique de la philosophie par la catégorie de la sagesse en disant le sage, c'est toujours pour demain. Mais n'empêche qu'il faut y tendre et viser le plus possible à le devenir. Et je dirais que mon objectif, pendant toutes ces années que j'ai passées à l'ILA, à l'USTL, c'était justement de conduire, d'indiquer des pistes pour arriver vers la sagesse.
Donc, le progrès scientifique n'est pas forcément sage, et son usage immodéré peut rendre peut-être fou à certains moments, en tout cas dépendant, hein, on sait, cette addiction, etc. Est-ce que pour autant, ne pas en bénéficier, c'est aussi une source de pauvreté nouvelle, on va
tout
dire,
hein.
Et donc, pour ce progrès, ce qui en est vraiment, en termes de progrès, est-ce qu'on peut imaginer que, légitimement, tous les peuples du monde peuvent avoir cette aspiration à en bénéficier? Donc on parle d'aspiration démocratique.
Tout à fait. Et justement, alors là, c'est là un peu où le bât blesse par rapport au développement scientifique. C'est que le développement scientifique se produit surtout dans les régions déjà riches et accentue les différences entre les pays riches et les pays plus pauvres. Mais c'est vrai que, de toute façon, il faudrait bien arriver un jour à ce que les pays riches contrôlent leurs propres dispositifs, ce que j'ai appelé les dispositifs tout à l'heure, et pensent que ces dispositifs doivent pouvoir également être utilisés pour un meilleur être dans les pays du tiers-monde, par exemple. Enfin, j'ai fait mon travail de thèse sur un philosophe qui s'appelle Whitehead, qui distinguait entre le bien-vivre et le mieux-vivre. Alors, le bien-vivre, pour lui, c'était simplement assurer la subsistance matérielle. Et bien, déjà là, les pays du tiers-monde ne l'ont pas, mais ils ont encore moins le mieux-vivre, c'est-à-dire la capacité d'une qualité de vie telle que nous l'avons en Occident. Et effectivement, là, il y a tout un travail à poursuivre, parce qu'on a l'impression parfois que les dispositifs scientifiques, justement, tournent un peu fous. C'est-à-dire que ça se développe comme ça, en fonction des intérêts, de la rentabilité des dispositifs ainsi créés, et qu'on oublie complètement la possibilité d'enrichir un peu plus les pays qui sont en voie de développement. Vous allez me dire, mais ils ont tous des portables dans tous ces pays, mais justement, ils n'ont que ça, ils n'ont pas d'autres moyens.
Voilà, j'allais dire, ils ont sauté une génération technologique.
Tout à fait, tout à fait. Moi, je me réjouis beaucoup de voir à quel point Facebook, ici, dans ce qui vient de se passer et qui continue de se passer au Moyen-Orient, a pu rendre la liberté précisément à des populations qui étaient tout à fait condamnées au silence et à la famine en même temps. Enfin, bon, je crois que là, ils ont décidé de se lever et puis de protester contre ça, grâce, je crois, bien sûr, pas uniquement grâce à Facebook, mais quand même, je pense que là, les innovations technologiques ont été certainement d'un grand secours.
Donc là, on est dans le cadre de progrès qui favorisent la démocratie. Il y a aussi des progrès qui la contraignent.
Tout à fait. Oui, oui. Vous voulez dire ?
Je vous laisse parler, là.
Hein. Il y a des progrès qui vous voulez dire des progrès de...
Ça veut dire qu'on peut imaginer des dictatures qui utilisent ces technologies pour justement contraindre des personnes.
Ah oui, ok, d'accord. Ben, effectivement, bon, je pense que les moyens de communication actuels sont pour tout le monde, mais que effectivement, les plus adroits, les plus habiles dans l'utilisation justement de ces moyens-là, peuvent devenir effectivement des tyrans. Enfin, bon, y en a un tas dans le monde.
Et puis il y a aussi notre possibilité, c'est une sorte de camisole technologique où les gens sont un peu soumis à pression sur avoir la nécessité d'avoir tous ces objets sans lesquels ils n'existent plus.
C'est ça, oui, tout à fait. Quand je parlais de doudou, c'est un petit peu ça que je voulais dire aussi, c'est-à-dire la difficulté d'exister sans cela, la difficulté de s'en passer. Bon. Alors, Agamben, dont je vous ai déjà parlé, là, qui a écrit un petit bouquin sur le qu'est-ce qu'un dispositif, dit qu'il n'utilisera jamais lui-même de portable. Alors, il va très loin quand même, là, parce que justement, le danger est grand que ce dispositif-là entraîne des aliénations, des servitudes.
Ouais. Et pour finir, il est passé au portable ou pas ?
Non, justement.
Jamais.
C'est un Italien et qui dit qu'en Italie, ça fait partie de la vie quotidienne, peut-être encore plus qu'en France, mais qu'il refuse.
Parce que j'ai connu des résistants qui ont finalement
flanché.
Ouais. Oui. Ils ont craqué.
Flanché.
Voilà, donc on a à la fois des idées qu'on défend et après il y a la réalité.
Tout à fait.
Est-ce qu'on peut imaginer d'avoir des idées sans se projeter ou s'intégrer à une réalité ?
Ah oui, alors là, c'est le problème de l'engagement du philosophe, par exemple. Et ça, c'est vraiment peut-être même le seul problème qui se pose aujourd'hui au philosophe, c'est de ne pas se contenter justement d'idées. Je reprends mon exemple d'Eric Weil, qui a écrit un livre qui s'appelle « La philosophie politique », où il montre qu'on ne peut pas s'en sortir si... Le philosophe lui-même ne peut pas s'en sortir s'il ne produit pas une action là où il est. S'il est homme politique, effectivement, il produira une action politique, mais là où il est, de toute façon, qu'il soit toujours en train de questionner les dispositifs qui sont mis en place pour essayer de les mesurer à leur juste valeur.
Alors, Jean-Marie Brevard, pendant un moment, les philosophes ont été très discrets sur les problèmes du monde. On les voyait plus dans les salons, enfin, du moins ceux qu'on voyait, ils étaient plus dans les salons, les plateaux de télé, éventuellement, à côté du pouvoir, bien en place, mais plus vraiment sur... La dénonciation, enfin quand je dis dénonciation, je veux dire éclairer le monde sur les problèmes. Est-ce que ça change un peu ?
Oui, c'est en train de changer, je crois. Enfin, quand on voit des gens comme Stéphane Hessel ou Raphaël Enthoven qui passent une émission tous les jours à France Culture, enfin sur les nouveaux chemins de la connaissance, on s'aperçoit qu'il y a de nouveaux philosophes maintenant qui refusent justement la philosophie universitaire classique, enfin formelle, pour justement aller au cœur même de la philosophie, qui est un questionnement sur les questions de notre époque. Ça, je crois que c'est absolument capital. Et il y en a ce qui me plaît, c'est qu'actuellement, il y en a de plus en plus qui font ça. Enfin,
alors ce qui est étonnant, c'est que dans cette histoire de prise de conscience, à un moment donné, on voyait plus des gens comme l'abbé Pierre que des philosophes
tout à
sur
fait.
Le terrain c'est et vrai. Être concrètement opérationnel, on va dire.
Oui, c'est vrai.
C'est bizarre.
Oui, c'est bizarre.
Est-ce que le fait que l'abbé Pierre n'existe plus a conduit les philosophes à ressurgir ?
Non, je ne pense pas, mais il faut replacer ça dans l'histoire de la philosophie elle-même. Je pense qu'on est arrivé à une impasse du point de vue de la philosophie de type universitaire, justement, et qu'il a fallu questionner trouver les questions et les réponses, pas les réponses, surtout les questions, d'une autre manière. Et je pense à quelqu'un comme Bernard-Henri Lévy, enfin bon, on peut être pour ou contre comme on veut, mais n'empêche que c'est quelqu'un qui a posé des problèmes différemment, Stéphane Hessel, comme je vous disais aussi, bien qu'il ne soit pas lui-même philosophe directement, mais enfin ce sont des gens qui posent les problèmes autrement, mais ça n'exclut pas que certains continuent de faire comme l'abbé Pierre. Enfin, je pense que en faisant cela, d'ailleurs, il était d'une certaine façon aussi philosophe que les philosophes actuels. Enfin, bon, je veux dire que quand il a dit que c'était inacceptable, enfin, les pauvres qui étaient dans la rue comme ça, eh bien, il a d'une certaine façon fait un acte philosophique très fort.
Est-ce qu'on peut aller plus loin? On peut parler de Coluche. Est-ce que pour vous, c'est quelqu'un qui avait une certaine philosophie à transmettre?
Tout à fait. Ah oui, oui. Et je dirais que c'est la philosophie telle que je l'entends moi-même maintenant, qui aboutit à de la création quand même. Les Restos du Cœur sont nés à partir de là. C'est quelqu'un qui a pris au sérieux effectivement la recherche de sens, qui n'a pas admis l'absurdité de ceux qui n'avaient pas à manger, enfin, dans des pays développés comme le nôtre.
Alors justement, les problèmes sont loin d'être résolus. Hein. On va dire que les Restos du Cœur ont plus que jamais du travail,
oui,
et des financements à trouver. Est-ce que dans le cadre d'une société qui quand même évolue technologiquement, c'est encore admissible de voir que ces problèmes basiques ne soient pas réglés?
Non, c'est plus admissible. C'est sûr que non. On ne peut pas admettre que les hommes politiques ne s'intéressent pas, comme ils le devraient, à cette question-là. Enfin, bon.
Est-ce qu'à la limite, on peut dire qu'une société qui calcule le juste équilibre pour que les pauvres restent pauvres et les riches s'enrichissent est encore une société démocratique?
La question se pose actuellement. Moi, je me pose très clairement la question justement du modèle démocratique. Non pas en soi, évidemment, c'est le seul modèle qui peut exister, mais de toutes les déviances qui en sont possibles, y compris chez les tyrans d'ailleurs eux-mêmes, qui se disent démocratiques. Si on prend Laurent Gbagbo, il considère, lui, qu'il a respecté la démocratie, il l'a dit et redit, enfin, ce qui est absolument incroyable.
Donc on est à une période, j'allais dire, un début de millénaire, etc. J'allais dire, où on nous avait dit le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas.
Eh ben, moi je n'ai jamais été partisan de cette réflexion-là. Enfin, j'ai jamais admis cette réflexion-là. J'estime que, enfin, si on entend par religieux, appartenir à une religion particulière, peut-être. Mais le 21e siècle, on devrait dire, sera plutôt à la recherche d'un sens que religieux. Enfin bon, mais de toute façon, on ne pourra plus faire autrement. Maintenant, on est acculé, je dirais, on est obligé de poser la question du sens avec un certain nombre de crises qui se produisent ou qui se sont produites. Nous vivons à un moment très fort de ce point de vue-là, justement, où on ne pourra plus négliger cette question du sens. Et les philosophes, là, ont un rôle à jouer, non pas en tant que professionnel particulier de la sagesse, c'est pas ça du tout, mais chacun, on disait pour Coluche par exemple, chacun peut être philosophe et attirer l'attention des politiques essentiellement sur justement les absurdités de notre monde actuel.
Alors, dans nos sociétés démocratiques qui sont louables, on voit parfois des candidats qui le sont moins.
Tout à fait. Oui.
Et l'émergence de certains peut quand même inquiéter.
Tout à fait.
Est-ce que dans ce cadre-là, la science peut aider aussi à prendre conscience et sous quelle forme ça pourrait se faire?
Oui, disons, vous pensez plutôt par exemple à la sociologie, sociologie politique, ou enfin, comme ça, oui.
Et puis aussi les outils qui permettent de communiquer cette connaissance et cette réflexion.
Tout à fait.
Qui permettrait à l'homme de rester digne.
Tout à fait. Et là, c'est par exemple la pensée de quelqu'un comme Jürgen Habermas, enfin, sur les mécanismes de communication. Le philosophe est celui qui, effectivement, aujourd'hui, doit mouiller la chemise, enfin, je dirais, pour faire comprendre à plus de monde possible, enfin, par des écrits, par des conférences ou des choses comme ça, enfin, bon, ce qu'il en est du monde d'aujourd'hui. Et par conséquent, là, il y a tout un travail, effectivement, à faire pour sensibiliser les gens à la recherche de sens, et pas seulement pour eux-mêmes, mais finalement pour l'ensemble de la société.
Jean-Mirel Brevard, est-ce que vous considérez qu'un philosophe, c'est au départ un militant?
Oui, je considère que oui. Alors évidemment, c'est pas toujours très bien vu de dire ça. Certains, par exemple, il y a des critiques de Bernard-Henri Lévy de ce point de vue-là, enfin, en disant justement, c'est pas vraiment un philosophe, c'est d'abord un militant. Mais j'estime qu'en définitive, compte tenu du monde qui est le nôtre aujourd'hui et l'absurdité dans laquelle nous sommes, il est absolument nécessaire pas de militer comme on milite dans un parti, mais de ne pas se priver de s'indigner, enfin, pour reprendre l'expression de Stéphane Hessel.
Donc ce courant de l'indignation, est-ce que vous le voyez prendre forme ?
Oui, je pense qu'il prend forme actuellement. Alors évidemment, avec le risque que cette indignation soit une sorte de gadget, c'est-à-dire que ça n'aille pas plus loin. Mais justement, Stéphane Hessel lui-même s'est tout à fait gardé de ça. Il a dit que ça devait conduire, et il voulait même donner un autre titre, je crois, qui était « Engagez-vous » plutôt que « Indignez-vous ». Mais c'est vrai que ça commence quand même par l'indignation. Enfin, bon. Mais l'indignation ne suffit pas à elle seule sans l'action. Enfin, je reviens à ce que je disais sur Eric Weil. C'est uniquement dans l'action que l'on peut essayer de réconcilier les désirs individuels des gens d'un côté, et puis le fait que tout le monde vive ensemble et en paix les uns avec les autres. Weil disait que on ne peut pas être philosophe si en même temps on ne pense pas que toute l'humanité doit être heureuse. Et tant qu'elle ne l'est pas, on ne peut pas être vraiment philosophe.
Mais Jean-Marie Brevard, je vous propose de nous quitter sur cette phrase et on se retrouve quand vous le souhaitez.
D'accord.
Bonne soirée.
Merci.
Thank you.